Alors, une conférence de physique. Hein, attention, si vous êtes trompé de salle, la science-fiction, c'est à côté. Non, je parlerai un peu de science-fiction, mais je pense qu'il y a un public extrêmement éduqué en science-fiction, donc je ne vous apprendrai pas grand-chose en science-fiction, c'est certain. En revanche, peut-être je vous apprendrai des choses en physique. En tout cas, je vous montrerai des choses de physique que vous savez peut-être, mais que je vais vous montrer peut-être sous une forme un peu différente. Et je vais aborder donc le thème du rapport entre le nanomonde, les échelles nanométriques. Nano, c'est un préfixe grec qu'on utilise en physique pour dire un milliardième de quelque chose. Un nanogramme, c'est un milliardième de gramme. Un nanomètre, un milliardième de mètre. On est plus habitué au préfixe micro. On connaît microcrédit, microentreprise, peut-être micromètre si on fait de la physique. Micro, c'est le millionième. Donc entre nano et micro, nano, c'est un milliardième. Micro, un millionième. Donc nano, c'est 1 000 fois plus petit. Donc on parle des échelles, on va parler d'échelles de taille, nanomètres, qui sont donc 1 000 fois plus petites que le micromètre. Le micromètre, c'est pas grand. Je vais vous montrer tout de suite comment on va rentrer doucement dans ces échelles de taille. Et je vais en donner, moi, un regard de physicien. Alors en fait, je suis astrophysicien, donc je suis pas du tout spécialiste de nanotechnologie, de microélectronique, etc. Mais dans astrophysicien, il y a quand même physicien. Donc je suis censé comprendre un peu ce qui se passe en physique en général, et particulièrement en nanophysique ou en nanoscience, on dit maintenant nanoscience. Et donc, pour ceux qui m'ont lu ou me connaissent, je fais pas mal de travail sur, disons, les rapports entre science et SF, et ce qui m'amène à parler devant vous, à avoir été invité par Gilles Goulet et par les organisateurs de la convention pour vous parler de ça aujourd'hui. Alors, d'abord les échelles de taille. Voilà, pour vous montrer un peu comment ça se passe, les échelles qu'on reconnaît à l'œil nu, les fourmis, ça fait 5 mm de taille, une fourmi, quelques millimètres de taille. Et puis, 10 fois plus petit, c'est des cristaux de sel, du sel de table. Hein, quand on sale, les petits machins blancs qui tombent, ça fait un demi-millimètre typiquement, un peu moins d'un demi-millimètre. 500 micromètres, 500 millionièmes de mètres, donc 0,5 millimètres. Les cheveux, voilà un cheveu au hasard, 50 micromètres, un cheveu au hasard. Des gens qui ont les cheveux fins, ça peut être 20 micromètres. Les gens qui ont des gros cheveux, ça peut être 70 micromètres. Mais l'échelle typique, c'est quelques dizaines de millionièmes de mètres, un cheveu. Donc c'est quelque chose qu'on peut voir, hein, millionième de mètres. Quelques dixièmes de millionièmes de mètres, on peut le voir à l'œil nu, c'est quand même perceptible. Et puis ensuite, si on divise encore en gros par 10, en fait un peu plus, on tombe dans un monde, cette fois-ci, qui nous est définitivement invisible, qui a été révélé par les premiers microscopes. Le monde des bactéries, par exemple. Là, Escherichia coli, une bactérie bien connue, si j'ose dire, que dans nos intestins, on en a un certain nombre, et bien ailleurs encore. Et puis, si on divise encore, alors là, à peu près par 10 encore, on tombe soit-il dans des mondes d'objets. J'ai pris des êtres vivants, parce qu'on va voir que la problématique des nanotechnologies, elle aura à voir avec, disons, une problématique entre inerte et vivant, qui va, disons, interroger, ça va interroger la limite, la frontière entre inerte et vivant. Voilà un virus, le plus gros virus. Il s'appelle Mimivirus, pas Minivirus, Mimivirus, je ne sais pas pourquoi il a ce nom-là. En tout cas, il fait 300 nanomètres. Lui, on est passé cette fois-ci, on utilise plutôt maintenant le milliardième de mètre, 300 milliardième de mètre. Alors évidemment, c'est totalement invisible à nos yeux. C'est le plus gros virus. C'est déjà, il y a des bactéries qui sont plus petites que ce virus-là. Et puis, parvovirus, je mets un autre petit objet, 23 milliardième de mètre. Ça, c'est encore des structures complexes, hein, parce qu'une molécule d'eau, par exemple, la taille d'une seule molécule d'eau, c'est 0,3 nanomètres. 0,3 milliardième de mètre. Donc on est vraiment dans des échelles, quand on parle du nanomètre, en échelle extrêmement petite. Le nanomètre, c'est l'échelle typique des atomes et des molécules. La dizaine, centaine de nanomètres, c'est les, en tout cas pour les objets, pour les êtres vivants, ou disons, les virus, c'est pour les êtres vivants, ça ressemble pas mal à les êtres vivants. En tout cas, pour des êtres comme des virus ou des bactéries, on parle déjà en centaines de nanomètres, et puis après au-delà, les grosses bactéries, le micron, etc. Donc on est vraiment dans des choses qui sont inaccessibles à nos yeux et un monde qui était totalement inconnu avant, disons, l'invention du microscope, quand on veut voir le micromètre, le microscope pour voir les choses petites à l'échelle du micro, et puis après il n'y a pas de nanoscope, on va voir qu'il y a des engins qui permettent de voir ça, qui nous a été révélé bien plus tard. Alors, un point qu'il faut avoir en tête, c'est quand on descend dans ces échelles de taille, et je ferai tout à l'heure l'exercice en prenant des machines qui sont dans un roman de Michael Crichton, s'appelle La Proie, d'analyser ces machines par la physique. Quand on descend vers l'échelle de taille, les lois de la physique ne changent pas, mais disons que leur rapport de force change. L'intensité ou l'intensité des forces va plus être la même qu'à nos échelles et vont se manifester des phénomènes à ces petites échelles de taille, micromètres et même en deçà, évidemment, nanomètres, vont se manifester des effets physiques qui ne sont plus les mêmes qu'à nos échelles. Le rapport des intensités ne sont plus les mêmes. On va voir dans quel sens ça se produit. Et donc, pour commencer, je vais prendre un exemple qui est tiré de Superman. Superman, on justifie la force de Superman. Voilà une planche des premiers albums de Superman, des années 30, qui justifie pourquoi il est très fort. Enfin, plutôt, qui vous dit Superman est très fort, mais finalement, ça n'est pas surprenant. Parce que regardez, les petits êtres, alors là, c'est des êtres millimétriques, hein, alors les sauterelles un peu plus grosses quand même, mais les fourmis, c'est des êtres millimétriques. Regardez les fourmis, elles sont capables de soulever 100 fois leur masse, et elles peuvent sauter les sauterelles des distances qui, à notre échelle, correspondraient à plusieurs centaines de mètres. Donc finalement, Superman, s'il est très fort et il saute haut, et il soulève des gros objets, finalement, c'est une sorte de super fourmi. Il y a l'idée que ce qui se passe à petite échelle, la millimétrique, les fourmis, on peut essayer de le projeter à grande échelle, nous, les humains, et dire bah, finalement, Superman, c'est une sorte de super fourmi. Vous voyez l'argument, il y a une sorte d'extrapolation d'une échelle de taille, millimétrique, à la nôtre, métrique, en se disant, bah, si c'est la même chose, eh bien, Superman, c'est normal qu'il soit très fort. Et effectivement, si on dit qu'une fourmi, ça pèse à peu près 10 mg, on constate, ça, il y a des expériences qui ont été faites sur les fourmis, sur la traction, que les fourmis les peuvent tirer des charges énormes, c'est à peu près 100 fois leur masse, effectivement 100 fois leur masse. Donc une fourmi qui soulève ou qui manipule 100 fois sa masse, si on fait ça sur Superman, alors sur un être humain, Superman il fait plutôt 100 ou 120 kg, bah 120 kg fois 100, ça fait tout de suite une dizaine de tonnes. Alors Superman il soulève des voitures, il les jette, tout est normal. Vous voyez l'argument, il y a une sorte d'extrapolation d'une échelle à une autre. Eh bien il faut se méfier, et beaucoup se méfier de ce genre d'extrapolation. C'est-à-dire que ça ne marche pas en général, c'est faux, rédhibitoirement faux. Alors, comment on peut se rendre compte de ça? Voilà une courbe, mais pour ceux qui ne savent pas lire les courbes, ce n'est pas compliqué, c'est juste combien soulève un athlète en fonction de sa catégorie de masse en haltérophilie. J'ai pris les records du monde d'haltérophilie par catégorie de masse, et on les trace. Plus on est gros, plus on est fort. La courbe là, elle est croissante. Plus on est gros, plus on est fort. Oui, c'est pour ça que c'est des catégories de masse dans les sports de force, hein, parce qu'en général, les gros sont plus forts que les petits. Ok, plus on est gros, plus on est fort. Est-ce que quand je suis deux fois plus gros, je suis deux fois plus fort? Alors, c'est pas facile à lire là-dessus. La réponse est non. Quand je suis deux fois plus gros, je ne suis pas deux fois plus fort. Alors, comment ça se passe? Pour se rendre compte de ça, je ne vous dis pas comment elle sort. Enfin, je vais vous expliquer l'argument de comment je sors la courbe suivante. Il y a une modification de celle-ci. Au lieu de représenter la masse que soulève l'athlète, le record du monde, dans la catégorie de masse incriminée, je vais représenter la masse soulevée divisée par quelque chose en fonction de la masse de l'athlète. Et le quelque chose, c'est la masse de l'athlète à la puissance de tiers. Alors pour vous tuer tous, la puissance de tiers, ça veut dire la racine cubique du carré. Paf. C'est pas la masse tout court. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas la masse à la puissance 1 qui serait la masse tout court. J'ai pas divisé la masse soulevée par la masse de l'athlète. Si j'avais divisé la masse soulevée par la masse de l'athlète, j'aurais trouvé une courbe qui varie. Là, regardez ce que je trouve, c'est ça qui est intéressant. Quelque chose qui est à peu près horizontal, donc constant. Ça veut dire qu'un athlète soulève une masse à une performance physique qui n'est pas proportionnel à sa masse, deux fois plus lourd, deux fois plus fort, non, c'est pas ça. Il est proportionnel à sa masse, à la puissance de tiers, ce qui veut dire 8 fois plus lourd, pour faire en nombre rond, 8 fois plus lourd, pas 8 fois plus fort, 4 fois plus fort, 8 fois plus lourd, 4 fois plus fort. Vous voyez, c'est pas linéaire. Quand je multiplie par 8 la masse, le gars, il n'est pas 8 fois plus fort, il est seulement 4 fois plus fort. D'accord ? Et donc, il y a une extrapolation qui n'est pas linéaire. Linéaire, ça serait la règle de 3, on dit proportionnalité, on dit ce qu'on veut, on dit deux fois plus lourd, deux fois plus fort, 10 fois plus lourd, 10 fois plus fort. Ce n'est pas proportionnel, ce n'est pas linéaire. Donc ce que font les gens, les auteurs de Superman, c'est qu'ils font une extrapolation linéaire d'une petite échelle à grande échelle. Et cette extrapolation linéaire de simple proportionnalité ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas, on le voit ici, dans la cadre des masses d'athlètes, pour les athlètes, les performances d'athlètes, ce n'est pas la masse, c'est une certaine puissance compliquée dont on se fiche de la masse. Donc les lois à petite échelle, ce n'est pas les mêmes. Enfin, en tout cas, passer d'une échelle à une autre, ça ne se fait pas toujours par extrapolation linéaire. Et on peut faire ce petit calcul-là, je le fais pour ceux qui peuvent suivre, les autres, ce n'est pas très grave, seule la réponse compte. Si j'applique cette petite loi au cas d'un être humain, je dis un être humain soulève sa masse. Moi, je soulève ma masse. Et je dis alors une fourmi, combien elle va soulever la fourmi? Le petit calcul donne qu'elle va soulever à peu près 2 grammes, au lieu des 1 gramme, disons, mesure expérimentale. Et donc je retrouve la performance de la fourmi à partir d'un fait expérimental qui est moi, je suis un humain normal, soulève en général quelque chose comme sa masse. Donc cette loi, qui est déduite des performances d'athlètes, prolongée au niveau des fourmis, ça marche. Pas mal, c'est pas pile le truc, ça marche pas mal.
Sylvie.
Avec l'éléphant, oui, pareil, avec l'éléphant, ils sont beaucoup plus lourds que nous. Tu peux considérer qu'un éléphant qui fait, alors on va le faire vite fait de tête, nous on fait quoi? On va dire 100 kg, un haltérophile fort soulève 100 kg. Un éléphant qui pèse 8 tonnes, alors il pèse plutôt 4-5 tonnes, je dis 8 tonnes, c'est comme ça, du coup c'est 80 fois plus lourd, 81 fois plus lourd. Ah oui, ça marche pas, la racine cubique de 80, c'est pas très bien, c'est pas grave, on va prendre ça, à ce moment-là, on s'en fout, on prend les vraies valeurs, 50 fois plus lourd, et bien tu prends La racine cubique de 50, ça va faire 4 fois 4, 16, 70, donc ça fait à peu près 4, au carré ça fait 16. Il va soulever 16 fois plus que toi. Il va soulever 16 fois plus que cet haltérophile qui soulève 100 kg, qui pèse 100 kg. Il va soulever 16 fois 100 kg. Une tonne et demie, une tonne et demie. Et l'éléphant qui pèse beaucoup plus qu'une fois et demie ta masse, il ne soulève que une fois et demie ta masse. D'accord ? Donc ça marche, il faudrait que je te fasse la petite régression proprement. Mais en gros, ça marche. Il est plus gros, donc il soulève en absolu plus. Mais au regard de sa masse, proportionnellement à sa masse, il soulève moins. Ce qui fait que les enfants, par exemple, ont des performances physiques bien plus importantes que les adultes. Ce qui fait que les athlètes, par exemple, quand j'ai les athlètes, les gymnastes, vous remarquez que les gymnastes sont toujours des petits gabarits. Alors évidemment, ils ont plus des gros bras, mais ce sont des petits gabarits, d'accord, et des petites tailles, ils ont, et des petites masses. Ils ont un rapport de force qui est bien plus favorable en étant léger par rapport à être lourd. Les athlètes, ce n'est pas des haltérophiles, ils ne font pas des sauts, des trucs de trapèze ou de je ne sais quoi, incroyable, en étant des gabarits d'haltérophiles. Alors ça, ça a des conséquences. Avant de parler de ça en dessous, ce qui se passe, c'est que l'argument qui est derrière ça, pourquoi c'est la puissance 2 tiers de la masse, c'est qu'en fait, l'argument il est assez simple. Ce qui compte quand on est fort, c'est la section des muscles. On va faire ça pour un humain et on va voir que cette loi résonner pour un humain, elle a quelques pertinences malgré tout pour les fourmis aussi qui ne sont pas comme nous. Elles ont 6 pattes, elles n'ont pas de muscles comme nous, enfin c'est pas formé pareil. Ce qui compte, c'est la section des muscles, le diamètre des muscles. D'abord, on dit les gens sont des gros bras, il n'y a qu'à voir, ce sont les athlètes, c'est des baraques. Bon, c'est la section des muscles. Une section, c'est une surface. Premièrement, la masse, c'est quoi la masse? C'est quelque chose qui va dépendre de votre volume. Un volume. Votre masse, c'est quelque chose qui dépend d'un volume, c'est votre volume, à quelque chose près. Ce n'est pas la même chose, mais c'est lié à votre volume. Et votre force, c'est une section, c'est donc une surface. Quand on prend un objet et qu'on double sa taille, on double sa hauteur, sa largeur, son épaisseur. On double tout. Le volume de l'objet va être multiplié par combien? 2 en hauteur, 2 en épaisseur, 2 en largeur. Il va être multiplié par 8. Donc quand je double la taille d'un objet, je multiplie par 8 son volume. Et la surface de l'objet, une surface c'est une longueur fois une largeur, et je vais la multiplier par 2 fois 2. Je vais quadrupler seulement sa surface. Donc ça veut dire que quand je double ma taille, si je doublais ma taille par un coup de baguette magique, je multiplierai par 4 toutes les sections, section de mes cuisses, section de mon ventre, section de mes bras. Donc je multiplierai par 4 ma force et je multiplierai par 8 ma masse. Parce que mon volume, ça multiplie par 8. Et donc, je serai 8 fois plus lourd, mais seulement 4 fois plus fort. Vous voyez où ça vient? 8 fois plus lourd et seulement 4 fois plus fort. C'est un rapport entre surface et volume. Le volume croît plus vite que la surface. Ou le rapport entre surface et volume, il est favorable aux petits objets. Il y a plus de surface pour le même volume sur un petit objet que sur un gros objet. Et du coup, quand on comprend qu'à petite échelle de taille, la surface va jouer un rôle plus important que le volume, contrairement à notre échelle ou aux échelles supérieures, on a tout compris. Exemple, je veux rentrer dans l'eau. Rentrer dans l'eau, c'est pour nous, c'est évident. Je rentre dans l'eau. Bon. Mais une fourmi qui veut rentrer dans l'eau, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, l'eau, la surface de l'eau, c'est pas un truc, c'est pas rien. C'est des molécules d'eau qui sont tenues entre elles. Et la surface de l'eau se comporte, on peut la décrire comme un film élastique. Pour nous, on ne comprend même pas la question. Mais si vous mettez votre doigt et qu'il va toucher juste l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Hop, ça va faire un petit machin sous votre doigt. Un petit ménisque sous votre doigt. L'eau est élastique. Vous pouvez attirer le film d'eau en le touchant avec votre doigt, en le soulevant, vous pouvez l'attirer. Le film d'eau, à l'échelle du doigt, c'est quelque chose qui se comporte comme un film élastique. À l'échelle de la fourmi aussi. La fourmi ne rentrera pas dans l'eau. Pourquoi? Parce que la force qui est en action pour ce petit film d'eau, c'est une force de surface, qu'on appelle la capillarité. Et cette force de surface, elle va devenir d'autant plus importante que la surface est importante par rapport au volume. Le volume, ça sera la masse. Donc une fourmi qui est légère avec une grande surface, par rapport à son volume, par rapport à sa masse, elle ne pénétrera pas dans le film d'eau. Alors que vous rentrez trivialement dans l'eau. Parce que votre surface est bien plus grande que votre masse. Vos effets de force, vos effets massifs, vos effets de volume sont plus importants que vos effets de surface. Pareil pour les enfants, là je m'adresse à tous les gens qui ont eu des enfants, les mamans, les futures mamans qui se demandent pourquoi on couvre les nourrissons. Quand il fait froid, alors le nourrisson il disparaît. Quand il fait chaud, il est à poil. Parce qu'un nourrisson, c'est un être qui fait en gros un tiers ou un quart de la taille d'un être humain, adulte évidemment. C'est quand même un être humain, c'est un être humain, mais qui fait la taille d'un quart, on va dire, ou d'un tiers de la taille d'un être humain adulte, s'il est 3 fois plus petit, il a une surface 9 fois moins grande, L'énergie, on la perd, on est chaud, on la perd par la surface. Donc il va perdre 9 fois moins d'énergie que nous, parce qu'il a 9 fois moins de surface. Mais, 9 fois moins, puisqu'il a une surface 9 fois plus petite. Mais, cette énergie, elle vient d'où? Elle est produite par le métabolisme dans le corps du nourrisson, dans le corps de l'adulte. Elle est produite dans le volume du corps. Il a un volume qui est 9 fois 3, 27 fois moins important. Il perd 9 fois moins un truc qui produit 27 fois moins vite. Donc il perd moins, mais il en produit beaucoup moins d'énergie. Il la perd moins vite parce qu'il a moins de surface, mais il en produit beaucoup moins. Au final, il va se refroidir 3 fois plus vite que vous. Donc un nourrisson, ça se refroidit typiquement, un tiers de taille, 3 fois plus vite que vous. Un nourrisson, ça gèle instantanément. Prenez un gamin, expérience. Prenez un gamin qui fait 1/2 de votre taille, expérience. Vous le prenez, vous le mettez dans la piscine. Vous le mettez dans la piscine, vous attendez un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, il est congelé. Mais c'est pas parce que c'est un emmerdeur. C'est parce qu'il a la moitié de votre taille et que sa surface est beaucoup trop grande par rapport à son volume. En plus du fait que les gamins sont généralement moins gras que les adultes, et donc il n'a même pas la petite couche de gras qui lui permet de limiter les pertes thermiques. D'accord ? Et ça marche dans l'autre sens. Les nourrissons, on les réchauffe plus vite. Quand il fait chaud, le nourrisson, la chaleur, elle va rentrer plus vite dans son corps que pour un adulte. Et donc il aura chaud plus vite. Pourquoi ? On met les nourrissons dans des bains à 37 degrés. Parce que si c'est moins que 37, ils se refroidissent vite. Si c'est plus que 37, ils se réchauffent à l'intérieur vite. Donc à 37 degrés, c'est la bonne température, la température interne du corps, pour qu'il n'y ait pas d'échange thermique entre le nourrisson et le bain, et l'eau du bain. D'accord ? Donc c'est pour des raisons comme ça, aussi bêtes que ça. Là, pareil pour la diffusion, les fourmis ne respirent pas en faisant comme nous, elles respirent par diffusion de l'oxygène qui pénètre à travers leur peau, dans des petits trous dont j'ai oublié le nom, qui pénètre à travers leur peau. On sait qu'il y a des libellules géantes, des insectes géants qui se sont développés sur Terre il y a quelques centaines de millions d'années, à une époque où la quantité d'oxygène disponible dans l'air était plus importante que maintenant. Comme la quantité d'oxygène était plus importante, ça a favorisé l'émergence des insectes de plus grande taille, parce que la diffusion restait suffisante pour les alimenter en oxygène sur des tailles plus grandes, parce que l'air était plus riche en oxygène. Donc voilà, le truc important à retenir, c'est quand on diminue la taille, la surface diminue, le volume diminue, mais le volume diminue plus vite que la surface, ce qui fait que tous les effets de volume, les forces de volume, par exemple le poids, va diminuer plus vite que les forces de surface, par exemple la capillarité dont on parlait tout à l'heure, le fait de pouvoir rentrer dans l'eau à travers l'équivalent d'un film élastique qui couvre la surface de l'eau. Et donc cet effet-là, c'est déjà une première chose qui se produit quand on va vers les petites tailles. Du coup, bon, j'avais déjà dit ça tout à l'heure, du coup, si on prend les mini-super-héros, Ant-Man par exemple, ou si on prend lui, et Atom, voilà des super-héros qui ont des graves problèmes pour se laver, ils ne rentrent pas dans l'eau. Alors ils font comme les fourmis, il faut se frotter, c'est la seule solution, c'est se frotter, hein. Il n'y a pas que ça, se brosser. Les fourmis d'ailleurs font ça pour se débarrasser des cochonneries qu'elles ont sur elles, qui les gênent, elles se frottent, les insectes font ça, ils ne se lavent pas. Il se frotte. Deuxièmement, quand il parle, stop me, my pets, avec une voix très aiguë, parce qu'il y a des cordes vocales toutes petites. Donc, du coup, la fréquence est très élevée. Donc, il parle plutôt dans des ultrasons que les fourmis ne captent pas, c'est un autre problème. Quand il parle, la fréquence est très élevée, mais en plus, l'intensité sonore qui dépend du volume d'air qu'il a déplacé, il a des poumons tout petits, pouf, c'est une intensité sonore minable. Le type en haut ne l'entend absolument pas. Si le type d'en haut parle, pour lui, c'est un grondement de tonnerre terrible avec une intensité sonore énorme. Le type en bas, il est explosé. C'est-à-dire, si vous passez près d'une enceinte, une grosse enceinte de, je sais pas quoi, de techno, vous comprenez tout de suite l'idée, quand il y a des longueurs d'onde qui sont de l'ordre de la taille de votre corps, les graves qui sont de la taille de votre corps, vous entrez en résonance avec l'onde, vous bougez. Là, les longueurs d'onde, blablabla, juste moi, ça a la taille du millimètre. Donc lui, dès que je lui parle, je l'écrabouille simplement, enfin je peux l'écrabouiller, ou en tout cas lui faire sentir des effets physiques sur l'ensemble de son corps grâce aux ondes de pression de ma voix. Et puis, dernier truc, ce type-là, il ne peut pas être à température constante. Ou alors, il a un déguisement qui est extrêmement isotherme. Parce que précisément, il est extrêmement petit, donc il se refroidit très vite. Il ne peut pas garder sa température humaine constante, il va tomber à une température qui est la température ambiante. Les fourmis ont la température de la température ambiante. Et comme leur mécanisme métabolique dépend de la température, tout ce qui fait leur vitesse de vie, quoi, leur métabolisme, dépend de la température ambiante. Quand il fait froid, les fourmis, et puis quand il fait chaud, vous, elles cavalent. D'accord ? Et les mouches, pareil, enfin, etc. Donc voilà, tout ça pour dire, quand on arrive à des petites échelles, la physique ne change pas, seulement le rapport de force entre les effets physiques change. Alors il y en a plein d'autres, je dis ça. Voilà maintenant, c'est plus des super-héros, voilà un micro-mécanisme, c'est-à-dire un système, micro-système électromécanique, ça fait typiquement 30 millionièmes de mètres, ça c'est moins gros qu'un cheveu ce truc-là, c'est des mécanismes électriques, c'est-à-dire on alimente en électricité des roues dentées qui tournent, et qui tournent plutôt vite, 300 000 tours par minute, c'est un peu tonique, et c'est des choses qui sont moins grandes que le diamètre d'un cheveu. On sait faire ça. Ça s'est bloqué au bout de beaucoup de tours, mais comme il y a beaucoup de tours par minute, ça fait un peu plus d'une minute, ce truc s'arrête. Il ne bouge plus. Il n'est pas cassé, il ne bouge plus. Et pourquoi il ne bouge plus? Eh bien, c'est encore une fois des rapports surface et volume. C'est ce qu'on appelle en anglais stiction. Stiction, c'est un mot composé de stick, to stick en anglais, qui veut dire coller, et de friction, qui veut dire frotter. Ça colle et ça frotte. Les frottements, c'est des forces de surface. Quand je fais frotter deux choses l'une contre l'autre, d'abord, ça dissipe de l'énergie, premièrement, ça chauffe. Et puis, deuxièmement, plus les surfaces en contact sont importantes, plus c'est difficile de faire bouger les choses. D'accord ? Si vous prenez une masse de 1 kg et que vous la tirez, c'est un petit cube qui fait 10 cm de côté, et vous tirez ça, ça va marcher tout seul. Si maintenant ce truc-là fait une grande surface, il a même un objet est posé, qu'il occupe une grande surface sur le sol, vous aurez plus de mal à le déplacer. D'abord en général parce qu'il est plus important en masse, et ensuite il touche le sol avec une plus grande surface. Et vous allez devoir dépenser une énergie ou exprimer une force, utiliser une force plus importante pour le déplacer. Donc les forces de friction sont plus importantes, et tout stick, c'est qu'il y a d'autres forces que les capillarités, des forces qu'on appelle de Van der Waals, des forces de. Je ne rentre pas dans les détails, ceux qui savent tant mieux, les autres c'est pas grave. Il y a d'autres forces de surface qui apparaissent, et ces forces ont pour effet de coller les choses entre elles. Ce qui fait que les rouages y tournent, et à un moment donné, ça s'arrête parce que les forces de Van der Waals s'expriment bien, ça a fini par s'exprimer bien, les frictions ont usé la matière, et ça colle, et ça s'arrête. D'accord ? Donc, stiction, les forces de Van der Waals, induites. Et donc il faut absolument, à petite échelle de taille, minimiser les surfaces de contact. Il ne faut pas que ça se touche, ou que ça se touche le moins possible, pour qu'il n'y ait pas cet effet de stiction, comme disaient les anglo-saxons. Alors ensuite, voilà un autre objet, un objet micromécanique, on appelle les DMD, les Digital Micromirror Device. Voilà, il y en a un là, sur ce petit machin-là, la petite puce qui est là, il y a à peu près 2000 miroirs par 1000 miroirs, des tout petits miroirs, qui sont en fait des languettes qui peuvent être comme ça ou comme ça. Lever, baisser, j'applique une tension électrique, ça les baisse, monter, baisser. Ils réfléchissent à un rayon lumineux, ce genre de vidéo. Alors celui-là est un peu ancien, mais les vidéoprojecteurs modernes, certains ont ce genre de puce pour projeter l'image. Les premiers avaient des problèmes. Regardez ce qui s'est passé sur celui-là. Le problème, il est absolument évident. Ça, c'est des petits micro-miroirs. Vous voyez, des celles de taille 200 micromètres, 250 micromètres, cette longueur-là. D'accord ? Donc ça, c'est des quelques dizaines de micromètres, de millionièmes de mètres. Là, c'est collé. Et vous savez pourquoi c'est collé ? Parce que c'était mal isolé. Il y a eu des moisissures qui se sont développées, de l'humidité qui est rentrée là-dedans, et la capillarité a collé de manière irrémédiable, comme celui des mis de la colle, a collé la petite lame et c'était foutu. Le truc ne marchait plus, évidemment. Après, faites ce que vous voulez, c'était foutu. Donc ces machins-là, il ne faut pas qu'il y ait d'eau du tout dedans. Parce que dès qu'on est petit et qu'il y a de l'eau, ou n'importe quel liquide, mais de l'eau en particulier, il y a ces forces de capillarité qui peuvent se développer et provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareillage uniquement à cause de l'humidité. Donc pas d'eau, pas de poussière. Tout ça, c'est en milieu contrôlé et ça ne rigole pas. Il faut qu'il n'y ait rien qui gêne le fonctionnement de ces choses-là. Je pourrais comparer ça aux êtres micrométriques vivants, bactéries par exemple, qui seraient des sortes de micro-machines, enfin qui se comportent, en tout cas ça fait des trucs tout seul, c'est même plutôt plus puissant que ce qu'on sait faire comme micro-machines. Ces machins-là, ils se contrefoutent qu'il y ait de la poussière ou pas, ça vit dans l'eau, ça vit très bien dans l'eau. Vous voyez que déjà, dans toutes les analogies qu'on pourra faire entre micro-robots, nanorobots, tous ces petits objets qu'on espère fabriquer et le vivant, il y a une analogie, disons, fonctionnelle, en ce sens qu'on aimerait bien des petits robots qui se dupliquent eux-mêmes, qui prennent des briques et qui font des choses, etc. Mais il y a une différence radicale dans le milieu de fonctionnement. Le vivant, c'est dans l'eau et ça se contrefout qu'il y ait des poussières ou pas. Nous, ce qu'on sait faire, c'est sans eau et sans poussière. Donc, c'est complètement différent comme ambiance. Donc, nous, c'est contrôlé et dans le vivant, ça se débrouille. C'est de l'eau, la bactérie. La bactérie, c'est de l'eau. Vous aussi, d'ailleurs. Contrairement aux apparences. C'est de la bière aussi, c'est ça. Mais la bière, c'est de l'eau et des levures, donc bon, tout ça, c'est pareil. Voilà, c'est que les bactéries, c'est de l'eau. Donc les bactéries, elles sont dans l'eau. La fourmi, c'est quelque chose qui n'est pas de l'eau. Et donc, cette capillarité, ces effets de capillarité, se font pas entre deux. Ça peut se faire entre deux gouttes d'eau, mais à la fin, ça fait une seule goutte. Et vous ne distinguez plus les deux gouttes initiales. Là, il y a une matière, la fourmi, par exemple, et l'eau. Donc, il y a une interface entre deux milieux différents et qui sont rédhibitoirement différents, la fourmi et l'eau. Alors que les deux gouttes d'eau, au début, ce n'est pas les mêmes, puis vous les mélangez, boum, ça devient une seule goutte finalement. Même s'il y a des effets capillaires, si vous touchez une goutte avec une autre goutte, il y a des petites formes d'abord de gouttes en forme de 8, par exemple, on peut imaginer, et après ça fait la petite goutte finale. Alors, dernier objet sympathique pour les objets microscopiques, naturels, les pattes du gecko. Le gecko, c'est un lézard qu'on trouve à Madagascar, qu'on trouve en Malaisie, qui grimpe au mur. C'est un truc, là, ça grimpe comme ça, sur le plafond, comme les mouches, mais gros. Ça fait 250 grammes, quoi. C'est un machin, c'est pas une fourmi, c'est pas une araignée, c'est un gros truc, quoi. Et ça marche sur les murs. Alors voilà comment s'est fichu une patte de gecko. Là, on voit des petites lamelles en dessous, comme les petites lamelles de champignons, sauf que ce n'est pas des champignons, c'est des geckos. Quand on grossit ça avec un microscope électronique, alors qu'est-ce qu'on voit à l'échelle de 10 microns? On voit des petits poils, des petites touffes de poils. Et quand on grossit ça, on voit ça. Des sortes de petites ventouses. Ce ne sont pas des ventouses, je dis ventouses, mais ça ne fonctionne pas comme une ventouse. Ce sont des structures qui ont une taille de l'ordre, voyez, il y a ici l'échelle 300 milliardièmes de mètre. Ça marche, ce truc? Le sabre laser ne marche plus. 300 milliardièmes de mètre, ça fait 100 milliardièmes de mètres. C'est vraiment des nanostructures au sens propre du terme. Et cette chose-là, ça permet que le contact de la patte du gecko avec le mur se fasse de façon extrêmement intime. Autrement dit, la surface de contact soit extrêmement grande. Je veux dire, je comprends pas. Moi, j'ai des grandes mains. Enfin, non, des petites mains. Mais enfin, un gars qui a des grandes mains, il met sa main sur le mur. Pourquoi sa main, elle ne tient pas sur le mur? Pourquoi ça ne marche pas? J'ai pourtant une grande surface de contact. Rien n'est plus faux. Quand on met sa main en contact avec une surface, sa main, voilà, bête, la propre, en surface, en contact avec une surface, semble-t-il, horizontale, enfin, pas horizontale, mais lisse. En réalité, la surface n'est pas du tout lisse. On la regardait bien précisément au microscope électronique, on verrait des creux et des bosses. Ma main, c'est pareil, c'est des creux et des bosses. Et qu'est-ce que je mets quand j'ai un machin avec des creux et des bosses en contact avec un machin qui a des creux et des bosses? C'est les bosses qui se mettent en contact. Les bosses, elles sont toutes petites, des choses qui sont micrométriques. La surface de contact réelle entre ma main et le mur, ça se chiffre en, même pas en, en fraction de millimètre carré. Alors que ma main, elle fait beaucoup plus qu'un millimètre carré. Et le Ah, c'est microscopique, c'est beaucoup moins qu'un pour cent, beaucoup moins qu'un pour cent. J'ai pas de chiffre en tête à vous donner de manière sûre, mais c'est beaucoup moins qu'un pour cent, c'est très petit. Même si je sens le contact. Hein? Non, la surface de contact, la taille géométrique de la main.